Martin Hirsch, je me tourne vers vous. Enfin, vous êtes haut-commissaire aux solidarités actives, haut-commissaire à la jeunesse également, membre du gouvernement, bien sûr, à ce titre. Évidemment, on a parlé beaucoup macroéconomie, macrofinance. On va parler avec vous du capital humain, on va parler social. Justement, quand on se pose la question de la sortie de la crise et qu'on est avec les responsabilités qui vous incombent, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'accompagner les ressources les plus vulnérables dans cette sortie de crise et faire qu'ils repartent sur la route de l'emploi le plus vite et le mieux possible?
Merci, bonsoir. Je suis le seul qui ne soit pas économiste à cette tribune, donc j'espère que vous serez indulgent pour les bêtises que je vais dire. Et sur le titre de la table ronde lui-même, quand j'ai vu comment sortir de la crise, je me suis dit, quelle crise ? Parce que moi, depuis que je lis le journal, je vis dans un pays en crise. Depuis 30 ans ou 35 ans, on est dans une situation de crise, me semble-t-il, dont dans le dernier avatar, la crise qu'on subit depuis 15 mois, est à mes yeux, mais peut-être que je me trompe, un élément extrêmement fort, mais d'une crise qui n'a pas commencé avec Lehman Brothers ou qui n'a pas commencé avec les subprimes, qui a commencé, à mon avis, bien avant. Et qui est une crise d'un mécanisme, me semble-t-il, de création de richesse malsaine comme type de création. Créer la richesse, c'est bien, sauf quand on a des mécanismes de création de richesse qui créent trop de pauvreté en même temps et qui, du coup, aboutissent à détruire une partie de la société. La crise qu'on vit là a commencé avec la crise de subprime, c'est une crise du crédit, une crise du surendettement. Moi, j'ai senti que ça allait mal le jour où j'ai acheté ma première Renault.
Voilà, vous nous faites peur là tout d'un coup.
Quand j'ai acheté ma première Renault, je l'ai acheté, j'étais élève dans une autre école normale supérieure, en économisant mes premiers mois de salaire pour pouvoir m'acheter une Renault.
Vous étiez bien payé à l'époque.
Et quand je suis allé chez le concessionnaire pour payer ma Renault, en disant mais je peux faire un chèque pour payer, le concessionnaire a fait la gueule. En disant mais vous ne payez pas par crédit ? Il était déçu. Parce que je payais comptant et je ne payais pas par crédit. Et quand j'ai vu que les autres entreprises automobiles comme Ford, Chrysler, gagnaient plus d'argent par leur filiale financière, me semble-t-il, il y a 20...
Ça appellera des commentaires. Oui.
Que par leur métier de base, je pense qu'on est rentré dans un mécanisme économique compliqué. Quand on est pauvre, on a accès du crédit à 20%, donc on fait payer plus cher pour les plus modestes, alors que quand on est plus riche, on a accès du crédit à 4%. Et donc je pense qu'on rentre dans une économie qui n'est pas saine. Quand il y a effectivement dans la création de richesses des tels écarts, et là je rejoindrai Louis Schweitzer, de tels écarts, vous avez vu les derniers portraits de l'INSEE qui montrent que le 1/1000 des revenus les plus élevés augmente d'école par rapport aux autres, ce qu'on voit en France, ce qu'on voit en Angleterre, ce qu'on voit aux États-Unis, etc. Je pense qu'il y a une situation qui est une situation qui appelle et conduit à la crise. J'avais fait une première proposition iconoclaste en même temps que de créer le RSA, qui était d'indexer les revenus des plus grands dirigeants sur le taux de pauvreté. Ça fait rire tout le monde chaque fois que je dis ça. Mais regardez 3 secondes et demie ce qui se passe sur les évolutions des rémunérations au-delà des anecdotes de tel ou tel bonus. On a un système qui est un système qui est le symptôme d'une crise de valeur à tous les sens du terme et qui fait qu'effectivement, on a une partie de la population dans des pays comme les nôtres dont il ne faut pas oublier qu'avant même la crise récente, ils se retrouvaient dans une situation dans laquelle les 4 postes de dépenses les plus vitaux des dépenses contraintes que sont le logement, les remboursements de crédit, les impôts et les assurances sont passés en quelques années de la moitié de leur budget à 3/4 de leur budget. Ça veut dire que le moindre choc rend totalement vulnérable toute une partie de la population. Ce que je dis là est vrai pour 20% de la population, pas pour 1 pour 1000 de la population la plus pauvre. Pour 20% de la population, leur charge incompressible pour ces quatre postes de dépenses. Je ne parle pas de la nourriture, je ne parle pas du transport, je ne parle pas de l'éducation. Donc on était, me semble-t-il, quand est arrivé le dernier épisode de la crise des 18 derniers mois, dans un terreau dans lequel les mécanismes de création de richesses n'étaient pas satisfaisants et effectivement étaient à l'origine de dérèglements, de dérégulations, de situations qui rendaient vulnérables l'ensemble de l'économie. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est face à cela ? On se dit effectivement que quand on est responsable de réduire la pauvreté en période de crise, d'un côté, et d'autre part, aider les jeunes, quand les jeunes payent le tribut le plus élevé de la crise, puisqu'ils sont les premières victimes. Qu'est-ce qu'on se fait comme raisonnement pour pendant la crise et pour après la crise ? Première étape de raisonnement, de se dire que, effectivement, ce qui différencie la situation actuelle de la situation de la crise de 1929, à part les mécanismes de régulation internationale par rapport au protectionnisme, c'est qu'on a des systèmes de protection sociale qui existent et que ces systèmes de protection sociale évitent de mettre tout d'un coup à la rue des millions de personnes. Et donc, il faut les faire jouer, agir dessus pour faire en sorte que, pendant cette période-là, on évite que les plus vulnérables s'écroulent complètement. Donc, c'était toute la nécessité, non pas d'avoir une sorte de relance générale par la consommation, mais au moins de maintenir ou d'augmenter la capacité de vivre, d'acheter, de consommer des plus modestes. Alors, je trouvais que ça tombait bien, puisqu'on avait préparé le terrain avec une réforme qui s'appelait le revenu de solidarité active, qui venait aider les travailleurs modestes. Et quand, au tout début de la crise, juste en septembre de l'année dernière, on faisait venir les économistes pour leur demander qu'est-ce qu'il faudrait faire, ils nous disaient qu'il faudrait faire un truc genre impôt négatif, c'est-à-dire genre revenu de solidarité active, donc poussez-le. Et cette réforme, d'ailleurs, qu'on m'avait poussé à ralentir avant la crise, de mes autorités, m'ont poussé à l'accélérer quand la crise est revenue, et c'est ce qui a traduit le fait qu'on a réinjecté de l'argent, la prime de solidarité active, le fait de supprimer les deux premiers tiers de l'impôt sur le revenu sur les plus modestes, etc., tout en se disant qu'il y avait ces mesures conjoncturelles qui étaient nécessaires pendant la crise, mais qu'au-delà, il fallait consolider un mécanisme de soutien aux revenus faibles. Je suis d'accord sur l'aspect faible qualification et problème de qualification d'une partie de la population, mais si on a une partie de la population qui est peu qualifiée, qu'est-ce qu'on fait face à elle ? Est-ce qu'on les renvoie uniquement vers les agences de chômage ou de l'emploi ? Ou est-ce qu'on dit, vous avez votre place sur le marché du travail ? Quitte à ce qu'on subventionne une partie de vos revenus pour ne pas que vous ayez un coût du travail trop élevé, mais que vous puissiez et qu'on puisse, d'un côté, ne pas augmenter le coût du travail, et de l'autre, augmenter vos revenus. Ça a été les mécanismes qui existent aux États-Unis, qui existent en Angleterre, qui existent désormais en France, qui avaient été amorcés par la prime pour l'emploi, de donner une sorte d'impôt négatif aux plus faibles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra continuer et pousser, tout en aidant à la qualification des plus modestes. Première chose. Deuxième chose, je pense que si on veut éviter les mécanismes de création de richesses qui créent trop de pauvreté, on a effectivement à pouvoir impliquer un certain nombre d'entreprises dans des modèles de création de richesses, peut-être à rentabilité un peu plus faible, mais autour du modèle, je dirais, élargi de ce que Younous appelle le social business, avec lequel on préside une chaire à HEC de social business, c'est-à-dire de mécanismes de création de richesse dans lequel la création de telle activité ne se fasse pas au détriment de l'emploi ou ne se fasse pas au détriment des populations les plus vulnérables. Et je pense qu'on a une marge de manœuvre assez large pour inventer de nouvelles choses. D'autant plus qu'il y a beaucoup de cadres supérieurs dans les entreprises qui disent deux choses. Un, qu'ils sentaient depuis des années qu'ils vivaient sur un modèle malsain. Et deux, qui disent aujourd'hui que ça repart comme avant. Et donc la troisième chose face à cela, c'est est-ce qu'on est capable de refaire une reconquête démocratique de l'économie ? Moi, ce qui me frappe, c'est de voir tant de gens aussi doués, avec ayant tant de manettes, se dire impuissants pour arrêter les machines infernales. Ce qui me frappe aussi, c'est de voir comment est-ce que, moi qui ai fait des études supérieures, je ne comprends rien au mécanisme. Quand on lit les papiers sur les nouveaux produits financiers, etc., je ne comprenais rien. J'ai dû refaire de la formation continue. Mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cadre-là. Je pense que pas un parlementaire ne comprend. Pas un parlementaire, quoi, ou peut-être trois parlementaires comprennent.
Vous avez des noms ?
Non, non, mais et Jean Pisani dit le plus grave, c'est les PDG de banque. C'est-à-dire que quand celles et ceux, c'est pas moi qui le dis, quand celles et ceux qui appliquent les règles, définissent les règles, ne comprennent pas comment ça marche, on se retrouve dans un système qui est forcément en danger et pendant lequel les quelques initiés qui comprennent comment ça marche peuvent dévoyer le système à leur détriment. Donc je pense qu'il y a un grand enjeu de reconquête démocratique de tous ces enjeux-là. Je peux vous assurer que dans les lois de finances, moi, j'ai bataillé pour obtenir un milliard et demi pour 2,5 millions de personnes, mais qu'il y a des dispositions qui peuvent coûter au budget de l'État quelques milliards d'euros que personne ne comprend, que personne ne voit passer, à part 3 ou 4 personnes. Donc voilà les 3 enjeux qui me paraissent majeurs pour renouer avec des mécanismes de création de richesses qui ne se fassent pas au détriment de la pauvreté.
Merci à vous. On a fini notre tour de table. Beaucoup de choses. Hein. Il y a bien sûr une matière très, très riche. On va prendre les questions dans un instant. Des micros vont circuler, donc vous pourrez vous présenter brièvement, s'il vous plaît, et formuler aussi des questions les plus brèves possibles, de façon à ce qu'on puisse en prendre le maximum. Auparavant, peut-être, quelques réactions. Il y a un fil rouge là qui courait entre vous, celui des inégalités et de leurs responsabilités dans la crise. Louis, vous évoquiez l'économie sociale de marché. Et au fond, à vous entendre, vous, chef d'entreprise, Martin, ministre, Patrick, économiste, Jean, économiste également, on se disait, mais tous disent, peu ou prou, il faut moins de marché. Est-ce que je me trompe ?
On n'a pas dit, il faut moins de marché, on a dit, il faut des mécanismes pour assurer plus d'égalité. Parce que, naturellement, le marché conduit à l'inégalité. Je veux dire, c'est... Le marché donne plus aux riches, donne plus à ceux qui réussissent, et c'est un système darwinien. Et donc, comme un système darwinien appliqué à des hommes est insupportable, il faut corriger ces effets du marché. Parce qu'autrement, on n'aura jamais de croissance saine. Ça, c'est une conviction, et je crois, en parfait accord avec Martin Hirsch là-dessus. Si effectivement, les gens sont obligés de s'endetter à 20% pour acheter des voitures, on voit bien que ce n'est pas un système où les constructeurs automobiles gagneront durablement de l'argent, parce qu'ils gagnent quand même leur argent en fabriquant des voitures, hein, principalement.
Bon,
je le dis
ôtez-nous d'un doute.
En passage, mais quand même, c'est avec ça qu'ils vivent. Et donc ça, j'en suis absolument convaincu. Deuxièmement, je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de biens dont on n'accepte pas que leur attribution relève uniquement de la richesse de chacun. Au fond, prenons un exemple d'une auto. Le fait que Martin, parce qu'il était pauvre, s'achète une Clio et que quelqu'un s'achète une Mercedes, au fond, qu'il n'y ait que les riches qui s'achètent des Mercedes, ça ne me gêne pas. En revanche, qu'il n'y ait que les riches qui puissent avoir une très bonne éducation, une bonne protection de santé, un accès à la culture, ça nous choque tous. Et donc, on voit bien que ces biens d'avenir sont des biens dont on ne peut pas accepter qu'ils soient attribués uniquement en fonction de la richesse des gens.
Jean, vous vouliez intervenir aussi.
Je voulais intervenir parce que je ne suis pas d'accord avec ce fil rouge qui parcourt vos 4 interventions, parce que je pense que avec des mots différents, vous avez dit un peu la même chose. Vous avez dit la crise était inévitable, elle était nécessaire parce qu'elle avait au fond des races nécessaires au sens...
Oui, inévitable.
Disons inévitable. Non. Donc, au sens où elle avait des racines économiques et sociales avant d'être financière, dans la distribution du revenu, dans les inégalités, dans les conditions d'accès aux biens. Bon. Moi, je partage totalement le diagnostic sur le caractère inacceptable d'un certain nombre d'observations que vous avez faites. La question, c'est quel est le lien avec la crise qu'on a vécue ? Je pense qu'il n'y a pas de lien en France, en Europe continentale. La crise en France, en Europe continentale, elle est importée. Elle vient des erreurs qu'ont fait les banques. C'est le système financier qui a été contaminé par la crise du crédit aux États-Unis. Ce n'est pas une crise du crédit interne. Donc ça n'a rien à voir avec la distribution du revenu En France et avec l'accès aux biens de
consommation. Peut-être un peu au Royaume-Uni, en Espagne, quand même.
Aux États-Unis, comment ?
Au Royaume-Uni, en Espagne, on a des taux d'endettement qui sont élevés.
Au Royaume-Uni. Mais pas... en Espagne, c'est une bulle immobilière assez classique. Bon. Aux États-Unis même, où le lien peut être absolument fait entre la distribution du revenu et le fait que, du coup, on a substitué de l'accès au crédit à l'accès au revenu pour une fraction de la population. La crise des subprimes elle-même, c'est une petite crise. C'est une crise qui est d'une dimension moindre que la crise des caisses d'épargne qu'on a eue dans les années 90 aux États-Unis. Et cette crise-là a fait exploser le système financier. Donc même aux États-Unis, il n'y avait pas de lien nécessaire entre la crise de subprime d'un segment du marché immobilier pour des populations qui normalement n'avaient pas accès à l'immobilier et l'explosion de l'ensemble du système financier.
On écoute Patrick sur ce sujet et puis Olivier également.
Oui, trois points. Je repars dans l'autre sens par rapport à Jean. Je pense qu'on a beaucoup trop regardé la finance. Et que, effectivement, Jean, tu dis en France, il ne s'est rien passé, mais le nombre de Français en commission de surendettement a augmenté de 40% en un an. En France, ce n'est pas un problème de crédit immobilier, c'est un problème de crédit consommation. On atteint la limite de la capacité à financer de la consommation par le crédit aussi en France, et pas seulement aux États-Unis. Et donc, je crois que la finance a été instrumentée pour compenser une déficience de l'économie réelle, qui est effectivement un écart entre le revenu qui était distribué et les besoins de consommer. Alors on pourrait discuter après ça de la réalité ou de la justification de certains besoins de consommer, mais de fait, on a un modèle standard et social de consommation à un instant que les revenus ne permettaient pas d'atteindre. Je voudrais juste poser deux questions. Sur les inégalités, il me semble qu'il y a un vrai débat qu'il faudrait être capable de trancher. Est-ce que les inégalités sont un problème d'absence de politique redistributive ? Auquel cas, ça se corrige, s'il y a une volonté politique, assez facilement. Il suffit de mettre en place des politiques redistributives, il n'y a qu'à taxer les riches pour donner de l'argent aux pauvres. Ou est-ce que les inégalités sont la conséquence d'un problème de l'économie réelle qui est que nous avons extrêmement peu de revenus ? La France est un pays où on a une croissance potentielle, c'est-à-dire notre capacité de croissance dans le long terme, mais probablement de l'ordre de 1% par an. Et donc, les politiques redistributives vont extrêmement rapidement buter sur l'insuffisance du revenu global. Donc, par rapport à ce que disait Martin, je crois que peut-être il faut se poser deux questions en même temps. C'est-à-dire, à court terme, de toute façon, ce n'est pas à court terme qu'on peut changer la croissance de long terme. À court terme, le seul instrument sont les politiques redistributives. Mais si on est à 1% de croissance, est-ce qu'on satisfera les besoins de biens collectifs ? On sait qu'il y a entre 1 et 2 millions de logements à construire dans ce pays. On sait qu'il y a des problèmes de santé, de retraite, d'éducation. Je crois qu'on ne pourra pas le faire. Donc il faut attaquer, il me semble, un autre sujet et pas se concentrer seulement sur la redistribution, qui est comment on fait pour avoir une croissance qui soit en même temps durable, comme disait Louis, mais qui soit en même temps suffisamment forte pour qu'on puisse satisfaire les besoins collectifs à partir de cette croissance. Donc la redistribution ne traitera pas tout. Je crois qu'il faudrait faire attention à ça.
Merci Patrick. On écoute Olivier, Martin, et on prend la question juste après.
Oui, très rapidement, simplement pour moi, et on sera assez proches, Patrick et moi, sur la crise économique. Elle vient essentiellement d'une globalisation, d'une mondialisation qui a créé énormément de capacités de production dans les pays d'Asie, mais qui n'avait pas une demande qui était un débouché naturel dans ces pays-là eux-mêmes, parce que la demande est trop faible aujourd'hui. La Chine, et les Chinois épargnent 40% de leurs revenus. Les Français, qui épargnent le plus du monde entier à part cela, sont à 17%. Les Américains, bien plus bas, ça c'était un problème. Mais donc à 40%, c'est énorme. Donc la réalité, c'est que les Chinois, par faute de système social, par faute de protection sociale, par faute de système de retraite, épargnent énormément. Parce qu'ils épargnent énormément, ils ne consomment pas beaucoup les produits qui sont fabriqués en Chine. Donc on a eu un système en réalité mondial qui a connu la surproduction. Et évidemment, le pendant économique, comme chacun sait, en macroéconomie et en macrofinance, le pendant économique de la surproduction, c'est un excès d'épargne. Cet excès d'épargne, il fallait faire en sorte de le recycler. Et d'une autre manière, cette surproduction, il fallait essayer de la compenser. Malheureusement, elle a été compensée de façon factice pendant des années, parce que les Américains avaient des revenus fixes qui n'augmentaient pas depuis 10 ans, et parce qu'il y avait de la pression liée à la mondialisation sur les salaires, et notamment sur les industries qui n'étaient pas high-tech, etc. Parce qu'en Europe, l'augmentation de pouvoir d'achat était faible. En réalité, il y a eu une sorte d'absorption de la surproduction par un endettement accru des ménages qui a permis de cacher pendant un certain temps cette surproduction mondiale. Et
quelle est la réalité de la responsabilité là, de la finance ? Elle est réelle, mais elle est d'avoir innové de façon à produire les systèmes financiers qui permettaient de financer des gens qui devenaient insolvables. Et donc là, et notamment dans les banques américaines, il faut bien le dire, les banques anglo-saxonnes en général, et notamment dans les banques de financement et d'investissement qui ont inventé tous les systèmes de titrisation, qui déresponsabilisaient les banques de détail aussi aux États-Unis sur la responsabilité du non-remboursement. Donc la finance a innové et a permis de cacher cette misère et a permis en même temps de l'aggraver pendant plus longtemps. Donc le retour en flamme quand ça explose est beaucoup plus violent. Voilà. Mais pour moi, hein, pour la France, le problème, franchement, ce n'est pas un problème financier parce que les banques n'ont pas cessé de faire des financements. Le problème, fondamentalement, c'est une importation de la crise, je suis assez d'accord, c'est une importation de la crise par l'international, par le commerce international, par aussi la dépression d'activité due aussi au moral des ménages, qui est évidemment impressionné par tout ce qui se passe, et puis parce qu'il y a de la demande qui baisse pour les entreprises, très concrètement, notamment les entreprises exportatrices.
Martin Hirsch, Pierre Jaillet, ensuite on prend la question.
Oui, une chose qui était en réaction de ce que disait Patrick tout à l'heure, je ne pense pas que la réponse aux questions des inégalités ou de la relégation sociale, ce soit uniquement en termes de redistribution. Bien sûr que non. Il faut de la création de richesse pour pouvoir distribuer d'un côté. Et de l'autre, il y a un enjeu colossal de sortie de crise qui est d'efficacité de la dépense publique. Et je trouve que là, on a des pistes qui peuvent être intéressantes. Je regarde sur l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification. Quand dans le système actuel, mes propres enfants sont plus aidés par la subvention publique que les enfants d'une famille qui gagne trois fois moins que moi, il y a un problème. Et parce que entre les mécanismes de quotient familial, etc., mes enfants sont plus aidés que ceux de quelqu'un, encore une fois, qui gagne trois fois moins que moi. Et quand on a fait voter cette semaine au Parlement une disposition qui permet d'expérimenter un mécanisme nouveau, qu'on appelle la dotation d'autonomie, qui permet de donner à chaque enfant à 18 ans un capital libérable dans certaines conditions, de quelques milliers d'euros qu'il pourra utiliser pour l'année d'études supplémentaires, pour le permis de conduire, pour un certain nombre de choses, sous condition, mais de telle sorte qu'on puisse vérifier que si, au lieu d'avoir le quotient familial, les aides familiales au-delà de 18 ans, les jeunes eux-mêmes disposent de ce capital sur lequel ils peuvent puiser sous condition, est-ce que oui ou non la proportion de celles et ceux qui pourront faire plus d'études, rentrer plus tôt dans la vie active, sera supérieure ? Et si oui, on pourra le généraliser. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a derrière la sortie de crise la possibilité de reconsidérer des politiques de dépenses publiques, c'est vrai en matière d'éducation, c'est vrai en matière de retour à l'emploi, etc., dans des conditions dans lesquelles on les forgerait dans des méthodes expérimentales où on teste quelque chose et on teste le rapport coût-efficacité d'une mesure par rapport au reste avant d'aller vers l'étape suivante et de pouvoir revoir tout notre système social à l'aune de nouveaux critères d'évaluation qui soient plus efficients que le grand gaspillage qu'il y a quand même derrière l'ensemble des dépenses publiques.
Pierre Jaillet, et on prend la question.
Très, très rapidement, si je ne voudrais pas priver la salle de temps. D'abord, je crois qu'il faut insister sur le fait que la caractéristique de cette crise, ça a été dit, c'est une crise de la globalisation. Je veux dire, c'est la première crise mondiale. Ça s'écarte complètement de toutes celles qu'on a connues dans les années 80, dans les années 90, etc. Et c'est une contagion qui est passée par le canal financier. La crise financière est par définition très contagieuse et on n'a pas trouvé ni bon traitement ni le bon vaccin. La deuxième chose, je suis très intéressé par l'idée qui a été évoquée qu'il y a vraiment eu, et ce n'est pas par hasard, une crise de désappariement entre un taux d'épargne mondial qui était très élevé, poussé à la hausse par la Chine, et des investissements qui finalement ont été de plus en plus risqués parce que la prime de risque précisément est tombée extrêmement bas, anormalement basse. Et donc d'une certaine manière, la crise reflète ça aussi. Le troisième plan, les enjeux pour la suite, la dépense publique évidemment. Je crois tout simplement que si la crise sert, et on peut le craindre, d'accélérateur à des mouvements qu'on avait déjà, c'est-à-dire que ce sont des pays qui croissaient déjà le plus vont croître encore plus vite et ceux qui croissaient moins vont croître encore moins vite. Dans ce cas-là, il y a un vrai problème. Comment va-t-on garantir la soutenabilité des déficits publics que l'on est en train d'amagasiner actuellement ? Et il n'y a pas de fatalité. À nouveau, je veux dire, quand on regarde comment la Suède d'un côté, le Japon de l'autre et d'autres pays sont sortants de la crise. Certains s'en sont bien sortis, d'autres pas, mais parfois au prix de mesures structurelles drastiques.
Merci. Peut-être y a-t-il des questions.